Donc, nous continuons l'étude de l'Évangile de Jean. Nous avons vu la semaine passée avec Pasteur Ronald que Jésus se trouve à Béthanie, qui n'est pas très loin de Jérusalem. Il est chez Lazare, qu'il a ressuscité peu de temps avant, qui se trouve aussi à être la demeure de Marthe et Marie. Et pendant qu'il est là, Marie fait un geste d'adoration qui est surprenant. Elle prend un parfum d'un très grand prix et elle en verse sur les pieds de Jésus. Et elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Donc, un geste d'adoration que Jésus approuve. Mais ça a été au grand scandale de Judas qui disait on est en train de gaspiller de l'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. Mais lui, c'est parce qu'il aurait voulu s'approprier cet argent-là. Il aimait mieux l'argent que Jésus. Donc, on voyait déjà un contraste dans une maison entre Marie qui veut adorer le Seigneur Jésus. Et quelqu'un d'autre qui fait semblant d'être son disciple, mais qui en réalité ne pense qu'à lui-même. Qui peut-être louange Jésus de ses lèvres, mais où son cœur n'est pas. C'est un sujet du passage qu'on va voir ce matin, d'ailleurs, qui est développé. Jésus annonce à Marie que c'est une bonne chose, finalement, qu'elle ait réservé un parfum pour lui et qu'elle pourra le conserver pour sa sépulture. Bon, c'est une triste nouvelle qu'il annonçait, mais il allait mourir bientôt. Et ce parfum allait pouvoir servir pour son ensevelissement. Pour mourir, bien, Jésus devait se rendre à Jérusalem une dernière fois pour la semaine de la Pâque juive. C'est là où nous sommes rendus aujourd'hui. Nous allons voir cela. Nous allons étudier le restant du chapitre 12, dont je vous invite à tourner dans Jean, chapitre 12. Une assez longue section, mais qu'on va voir en trois parties. Jean 12, à partir du verset 12. Le lendemain, la foule nombreuse de gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Alors ils prirent des branches de palmiers, ils sortirent à sa rencontre et ils criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël! » Jésus trouva un anon et il s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela, tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent de ces choses, que ces choses avaient été écrites de lui, et que pour lui, il les avait faites. La foule qui était avec Jésus, quand il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Et les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde est allé après lui. » On va arrêter ici pour le moment. Donc, on assiste à une scène de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est un événement important. C'est un des rares événements qui est rapporté dans les quatre évangiles. On le trouve dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, avec des détails différents, mais les quatre rapportent que l'entrée de Jésus, l'arrivée de Jésus à Jérusalem pour la fête de Pâques se fait comme une entrée triomphale. Il reçoit un accueil royal. C'est comme si le premier ministre arrivait et qu'on lui déroule le tapis rouge. Là. Donc, ils vont chercher des branches de palmiers et ils fêtent. Ça se passe, le dimanche, donc au début de la semaine, le dimanche qu'on a appelé le dimanche des rameaux, au début de la semaine de Pâques. Il y avait du monde à Jérusalem. Si on se fie à l'historien Joseph, qui n'est pas nécessairement une source les plus fiables, mais quand même, l'historien Joseph rapporte que à cette époque-là, pour la fête de Pâques à Jérusalem, il pouvait se réunir 3 millions de personnes. Bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il y avait foule. Il y avait des gens dans les rues, partout, dans les maisons. C'était plein à craquer. Et là, les gens apprennent que Jésus s'en vient. Alors, ils sortent pour l'accueillir avec des branches de palmiers qu'ils sont allés chercher, des rameaux. L'utilisation de branches de palmiers, c'est pas nouveau. On le lit dans l'Ancien Testament que c'était prescrit pour la fête des huttes, la fête des cabanes. Donc, ils devaient prendre des branches de rameaux, des branches de palmiers pour fêter cela. Mais on sait, d'après les historiens, que depuis au moins 2 siècles avant Jésus-Christ, les branches de rameaux, les branches de palmiers, c'était devenu comme un symbole national, un peu comme la fleur de lys pour le Québec, ou d'autres plantes pour d'autres endroits. Je ne sais pas c'est quoi la fleur du Pérou. Désolé. Donc, mais la, la, La branche de palmier s'était devenue comme un symbole national. Et s'ils sortent avec ça, c'est en signe de fête religieuse, mais on sent qu'il y a aussi une ferveur nationaliste là, qui est réveillée à la venue de Jésus. La foule accueille celui qu'ils espèrent qui va devenir leur roi, mais un roi qui va, entre autres, et comme première tâche, les libérer de l'oppression romaine. Ils attendent le libérateur, un roi qui va être là pour l'éternité, qui va enfin les libérer de l'oppression et qui va remettre la nation juive, finalement, en priorité. C'est la nation juive qui va avoir le dessus, même sur l'Empire romain, rien de moins. Donc, ils attendent Jésus comme cela et ils crient « Hosanna ». On l'a chanté ce matin, hein, « Hosanna ». Littéralement, ça veut dire « Sauve, Seigneur, sauve, éternel, nous t'en prions, ou veuille accorder le salut ». Je ne pense pas qu'ils étaient vraiment en train de penser à ça lorsqu'ils criaient « Hosanna », mais « Hosanna », on sait que c'était devenu une expression de louange, parce que c'était répété dans toutes les fêtes, c'est présent dans les psaumes, c'est présent au psaume 118, verset 25, c'était régulièrement chanté. Donc, c'était un cri qui était moins une supplication à Dieu « Viens nous sauver », mais comme pour louanger le Sauveur. Et là, le Sauveur arrivait, selon eux. Donc, c'est un terme juif religieux d'acclamation, de louange, et que les chrétiens font bien d'utiliser dans leurs chants ou leurs acclamations. Donc, la foule est en train de citer un mot utilisé dans le psaume 118, et il cite aussi le verset suivant, verset 26 du même psaume, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Bon, ici, c'est écrit au nom du Seigneur, parce que c'est la version grecque qui est citée, mais le Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est l'Éternel dans l'Ancien Testament. Donc, « Béni soit celui qui vient au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, du Seigneur. » Et pour les Juifs, celui qui vient au nom de l'Éternel, c'était une expression qui voulait dire le Messie, celui qu'on attend, le Christ. Donc, ils étaient en train de déclarer fort, là, ceux qui étaient convaincus de cela, au grand désespoir des pharisiens, que c'est le Messie qui arrivait, là, celui qui vient au nom de l'Éternel. Et la preuve qu'ils croyaient vraiment que c'était le Messie, en disant celui qui vient au nom de l'Éternel, c'est qu'ils ajoutent le roi d'Israël. Ça, ce n'est pas dans le psaume 118. Mais ces paroles-là sont à propos. C'est vraiment le roi qui arrivait. Donc, c'est à propos. Et la prophétie qu'ils citent parle réellement de Jésus. Donc, ils avaient raison. Mais je crois qu'ils ne comprenaient pas toute la profondeur de ce qu'ils disaient, toute la portée. Ils interprétaient mal les événements qui survenaient. Et il y a un détail que Jésus prend la peine. Pour lui, c'était important. Il n'est pas arrivé à dos de cheval, comme un guerrier. Là, il aurait marqué vraiment le début des préparatifs pour la guerre, pour la révolte. Non, il arrive sur un âne. Et c'est voulu, là. C'est pas pour rien que Jésus a choisi d'arriver sur un âne. C'est un choix délibéré qui marque son humilité. Il n'est pas un roi conquérant qui va arriver sur un petit âne. Il arrive dans l'humilité et il n'apporte pas les préparatifs pour la guerre. Qu'est-ce qu'il apporte? La paix. La solution pour une paix durable. Donc, une paix qui est même spirituelle, une réconciliation avec Dieu. Donc, c'est une libération spirituelle que Jésus apporte. Et ça avait été annoncé dans Zacharie 9, 9. Il dit, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. » Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc déjà, Zacharie, dans sa prophétie, inspirée par le Saint-Esprit, révélée par Dieu, prophétisait quelque chose qui est un peu contradictoire, qui est un paradoxe. Le roi arrive, il est victorieux, mais il est humble sur un âne. Comment il peut être victorieux et à la fois humble? Les grands de ce monde qui veulent la victoire, habituellement, ne sont pas très humbles. Et s'ils sont humbles, ils ne restent pas à leur poste longtemps. Mais Jésus, c'est vraiment tout le contraire. Et il arrive vraiment, je crois, dans une action de triomphe. Donc, la foule fait bien d'accueillir le roi. C'est vraiment une entrée triomphale. Mais ce n'est pas le triomphe ou la victoire auquel le peuple s'attendait. Les versets suivants dans Zacharie sont intéressants aussi, sont instructifs. Toujours dans Zacharie 9, versets 10 et 11, Dieu dit, je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse où il n'y a point d'eau. Donc le roi qui devait venir, humble, c'était pour apporter la paix, mais une paix non seulement nationale, mais offerte à toutes les nations, qui allaient s'étendre d'un océan à l'autre. Donc parmi tous les peuples, il doit arrêter la guerre, et non pas en déclencher de nouvelles. Il doit annoncer la paix à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, et tout cela se passe à cause du sang de l'Alliance. Et Jésus est justement sur le point de sceller une nouvelle alliance par son sang. Et grâce à cela, les captifs seront libérés. Ici, on ne parle pas de captifs au sens littéral en prison, mais de captifs spirituels. Donc, tout cela est en train de s'accomplir dans le ministère de Jésus. Il est vraiment en train d'accomplir Zacharie, mais sur le plan spirituel, ce qui était inattendu. Et ce qui était difficile à comprendre pour les gens de l'époque qui n'avaient pas encore l'esprit en eux. Ici, Jésus accepte d'être accueilli de la sorte parce que l'heure de son triomphe est vraiment arrivée. Pourtant, il s'en va vers une humiliation des plus complètes, un mépris, un rejet. Sa victoire sera pourtant dans l'humilité la plus profonde et l'humiliation même la plus basse. Et pourtant, c'est tout de même une victoire. C'est un grand paradoxe que le Nouveau Testament met sous nos yeux et ça devient le modèle pour la vie chrétienne aussi. Mais à l'époque, les disciples ne le comprenaient pas. Ces disciples qui suivaient Jésus ne comprenaient pas pourquoi ils s'abaissaient autant que ça et pourquoi même ils pourraient parler de mourir. Mais la foi qu'ils auront après la résurrection glorieuse de Jésus, puis en plus on sait qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit qui va les éclairer, mais cette foi-là qu'ils auront va leur permettre de comprendre « Ah, c'est pour ça que Jésus est entré sur un âne. C'est pour ça qu'il était humble comme ça. C'est pour ça qu'il est mort. » Ils vont comprendre par la suite. Plusieurs gestes que Jésus a posés pendant son ministère ont été compris seulement après la résurrection de Jésus. Et ils peuvent être compris aujourd'hui par les chrétiens. Donc, pendant un temps, Jésus a souffert d'être incompris. Mais il a souffert cela pour nous. Le texte révèle ensuite pourquoi la foule a accueilli Jésus de la sorte. Ils ont appris qu'il s'en venait, mais pourquoi ils ont pensé que c'était le Messie? C'est parce que ceux qui étaient présents lorsqu'il a ressuscité Lazare arrivaient devant lui, puis ils le disaient à tout le monde à Jérusalem. Lazare, à Béthanie, là, Jésus l'a ressuscité des morts. Ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau, il commençait à sentir, et Jésus a crié, « Lazare, sort! » puis il est sorti. Donc, il a propagé cette bonne nouvelle-là. Les gens ont dit, « Wow! S'il est capable de délivrer un homme de la mort, il est certainement capable de délivrer notre peuple de l'oppression romaine. » Pour eux, c'était clair, c'est celui qui va nous délivrer. Donc, ils voyaient, il peut répondre à nos besoins. C'est le chef d'État qu'on a besoin. Et ils se sont mis à le louer, mais on voit que c'était une foi qui était quand même uniquement pour les affaires terrestres, les affaires de ce monde, temporaires, pour répondre à des besoins physiques. Ils louent Jésus, mais c'est une louange qui est des lèvres, il n'y a pas de blasphème dans ce qu'ils disent, mais on ne voit pas que ça vient du cœur. Les mêmes interrogations se poursuivent, la même incrédulité est là. Et le texte ne dit pas qu'ils sont devenus les disciples de Jésus non plus, ceux qui criaient. Peut-être par la suite, ils le sont devenus, mais à ce moment-là, ils ne le louent que des lèvres. Et tout ce que ça produit, ces louanges-là, c'est d'attiser, finalement, la haine des chefs religieux qui veulent la peau de Jésus, les opposants de Jésus. Donc, plus la foule crie, plus les pharisiens sont en colère et même inquiets. Et ils se parlent les uns aux autres, ça ne se passe pas comme prévu. Et je crois que dans le contexte, ils vont même faire des reproches au Sanhédrin qui a pris la décision unanime de faire mourir Jésus. Il devait être arrêté, mais ils disent, de toute évidence, votre plan ne fonctionne pas. Tout le monde le suit, Et on sait que même présent à Jérusalem, il y avait des gens venus d'ailleurs, des pays païens qui étaient présents, et même eux suivaient Jésus. C'est développé dans les versets suivants. Donc, ils sont choqués. Ils vont devoir agir, mais on voit que même s'ils avaient le plan, on va saisir Jésus lorsqu'il va arriver, ils ne peuvent pas mettre la main dessus. Leur plan pour arrêter l'arrivée triomphale de Jésus ne fonctionne pas. C'est une belle illustration de ce qui va se produire par la suite. Lorsque Jésus sera ressuscité, qu'il remontera au ciel, on lit dans le livre des Actes qu'à plusieurs reprises, ces mêmes Juifs, les chefs religieux, surtout venant du Sanhédrin, mais un peu partout aussi dans les pays, vont combattre la montée du christianisme, ils ne pourront pas l'arrêter. Leurs efforts vont tout être autant infructueux. Et depuis 2000 ans, ça n'a pas changé. Ce n'est pas seulement les autorités juives, mais tous ceux qui sont des opposants à Christ sur la terre et qui décident tout à coup, il faut mettre fin au christianisme qui est nuisible. Même s'ils persécutent l'Église, ils n'ont jamais pu empêcher l'Église de continuer d'exister et même de progresser. C'est étonnant de voir que dans les coins du monde où il y a la persécution la plus forte, c'est là où il y a le plus grand progrès de l'Évangile, souvent. Mais ça a commencé par la vie de Jésus, qui est devenu comme le modèle de la vie chrétienne par la suite. On voit que ce ne sont pas tous ceux qui louent Jésus-Christ qui sont vraiment ses disciples. J'espère que nous sommes tous ici ce matin qui avons louangé Jésus par nos chants, mais c'est pas sûr. Chacun de vous le sait. Il peut y avoir dans une assemblée des gens qui sont des véritables disciples, qui louent le Seigneur, et d'autres qui le louent simplement parce qu'ils aiment la musique, ils aiment les paroles, ils aiment louer. Mais est-ce que leur cœur est là? Est-ce qu'ils sont vraiment en train de louer Jésus? Est-ce qu'ils croient que Jésus est le Christ? Est-ce qu'il est leur Seigneur? C'est pas automatique, ça. Il peut y avoir même certaines assemblées où la majorité ne sont même pas de vrais disciples de Jésus. C'est une question qu'il faut se poser. Mais peut-être vous avez déjà l'assurance, vous êtes sûr. Mais comment on fait pour savoir si on loue le Seigneur en tant que disciple ou seulement des lèvres? Jésus nous dit qu'on reconnaît un vrai disciple et on peut savoir qu'on en est un si on obéit au Seigneur. On ne fait pas juste louanger Dieu pour ses belles paroles ou comme ici un groupe qui dit « Jésus a ressuscité un mort ». C'est sûr que tout le monde va être étonné de voir ça. Un vrai disciple, c'est celui qui prend les paroles de Jésus et les applique dans sa vie, les pratique. C'est là qu'il prouve qu'il est véritablement un enfant de Dieu. L'obéissance à Jésus prouve qu'on est un disciple, qu'on est sauvé, qu'on est réellement un enfant de Dieu, un enfant de lumière, comme Jésus l'appelle. Donc, êtes-vous un vrai disciple de Jésus? Est-ce que vous vous souciez de connaître quelles sont les prescriptions de Jésus et de les appliquer, de les mettre en pratique dans vos vies? Êtes-vous prêt à vous repentir quand vous voyez que ce que vous faites n'est pas conforme à la volonté de Dieu? Êtes-vous prêt à investir du temps pour le Seigneur? Aussi, le seul temps que vous avez, c'est de le louanger, mais que dans vos vies, vos décisions ne sont pas prises en fonction du Seigneur. Et vos habitudes non plus. Mais il est toujours temps de devenir un disciple de Christ. Dans le récit, en plus des Juifs qui acclament Jésus, il y a un autre groupe qui veut rencontrer Jésus. On chantait ce matin qu'on veut voir Jésus, on veut le rencontrer, on veut être auprès de lui. Mais il y a un groupe qui a eu ce désir-là. On va lire la suite, verset 20. Toujours dans Jean, chapitre 12, verset 20. « Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur ou Monsieur, nous voudrions voir Jésus. » Et Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde, il la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, non, c'est un ange qui lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, c'est le jugement du monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Mais nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Mais pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. » Jésus dit cela, puis il s'en alla et il se cacha loin d'eux. Donc, des Grecs étaient là aussi, à Jérusalem, et il est dit qu'ils sont venus pour adorer. Donc, ils croyaient au Dieu juif. Peut-être qu'ils étaient même des prosélytes, mais ils étaient certainement des croyants Dieu. Donc, des gens païens, mais qui croyaient au Dieu, à l'Éternel. Et ils souhaitent voir Jésus, ils souhaitent avoir un entretien avec lui. Et ils passent par Philippe. Le texte ne dit pas pourquoi, mais Philippe n'est pas né en Judée, il est né à l'extérieur, donc l'extérieur de la Judée, et il porte un nom grec. Philippe, c'est typiquement grec. Avis à tous les Philippe ici. Donc peut-être qu'il passe par lui parce qu'il pense que ça va être plus facile d'atteindre Jésus. C'est possible. À l'époque, les païens étaient vus d'un second rang, ils ne devaient pas se mêler avec les Juifs. Donc ils veulent avoir un entretien avec lui, et Jésus ne répond pas directement à leur demande. Mais on voit qu'il leur parle, donc il accepte qu'il soit devant lui, mais il parle du phénomène plutôt qui est en train de se passer. Jésus constate une chose intéressante, c'est que les chefs religieux juifs qui représentent le peuple de Dieu, ils veulent conduire le peuple à le rejeter et à le tuer, à le mettre à mort. Donc une grande opposition qui vient pourtant de son peuple. Et c'est par amour pour eux qu'il agit. Et son peuple veut le rejeter. Et en même temps, des païens viennent d'ailleurs, de d'autres nations, et veulent le rencontrer. Ce n'était pas un phénomène encore généralisé, mais quand même, Jésus voit un moment important de l'histoire du salut de Dieu auquel il arrive. Et il déclare pour la première fois, « Maintenant, l'heure est arrivée. » Et il a plusieurs fois parlé de son heure, qui n'était pas encore arrivée. Il en parlait au futur, mais maintenant, il dit, « Maintenant, l'heure est arrivée, mon heure est arrivée. » Le moment fixé par Dieu le Père, pour sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son élévation, son ascension dans les cieux est arrivée. Et tout cela, sa mort, sa résurrection et son ascension, on peut dire que c'est sa glorification. L'heure de sa glorification est arrivée. L'heure où il sera glorifié. Mais c'est un peu étrange à nos yeux comment sa mort peut faire partie de sa glorification. On pourrait comprendre que sa résurrection, c'est éclatant. Il y a une gloire dans cela, puis monter au ciel, c'est glorieux. Comment sa mort sur une croix infâme, dressée par Rome, alors qu'il a été livré par son propre peuple, comment ça peut être glorifié? Glorieux. Comment Jésus peut être glorifié? Elle l'est, et Jésus s'explique, par le fait que Jésus refuse de se glorifier lui-même. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il n'agit pas pour attirer la gloire sur lui. Il agit humblement. Il vient sur un âne. Il refuse de se glorifier lui-même, mais il obéit à son Père. Et l'acte ultime qui prouve qu'il agit vraiment pour son Père, c'est qu'il est prêt à mourir, à donner sa vie. Il a pleinement confiance que son Père va prendre soin de son âme, va le ressusciter comme promis. Mais il est prêt à souffrir jusqu'à mourir pour glorifier son Père. Et ça, en soi, c'est un acte glorieux. Qui le glorifie? Il accepte de donner sa vie pour sauver tous les futurs enfants de Dieu, en suivant la volonté de Dieu. Ça devient le modèle pour tous les chrétiens sur la terre. Depuis Jésus est venu, il est l'exemple. Et lorsque des chrétiens sont persécutés, sont humiliés, mais qu'ils acceptent cela, de subir ça pour le nom de Christ, lorsqu'un chrétien accepte d'être traité injustement au travail, ou dans sa famille, ou auprès de ses voisins, parce qu'il est chrétien, pour honorer Jésus, mais ça glorifie Jésus. Et dans l'histoire, il y a eu des martyrs, il y en a encore aujourd'hui, qui sont morts dans une mort humiliante, mais c'est tout à la gloire de Jésus. Parce que s'ils le font, c'est pour glorifier Christ, pour glorifier le plan de Dieu. Et finalement, c'est à leur gloire aussi. Dieu glorifie ceux qui ont agi pour sa gloire. Donc, le don de sa vie, Jésus le compare à un grain de blé. Un petit grain de blé. Donc, il fait une parabole ici. Le grain de blé, si on veut le garder en sécurité, il va rester seul. Il ne portera pas de fruits. Mais s'il est jeté en terre et qu'il meurt, c'est là qu'il va pousser et qu'il va porter beaucoup de fruits. Ça devient le principe général pour tous les hommes. Celui qui tient à sa vie, Jésus dit, va finalement la perdre. Il ne porte pas de fruits et au bout de la ligne, ça va être perdu. Mais celui qui est prêt à donner sa vie, la consacrer au Seigneur et peut-être littéralement mourir pour lui, il porte du fruit et il va finalement la conserver pour la vie éternelle. Donc, l'acte d'obéissance de Jésus, sacrificiel, devient l'exemple ultime pour les chrétiens. C'est pour ça que pour être un chrétien, un disciple de Jésus, ça implique nécessairement de le suivre, mais de le suivre volontairement. Ce n'est que si c'est un acte volontaire qu'on est en train de glorifier Dieu. Donc, on suit Jésus volontairement sur cette voie où, éventuellement, on passe par la mort, mais que ça conduit à la vie éternelle. Donc, une voie où on y marche par la foi. Sans voir le prix, on ne peut pas y toucher encore. On marche par la foi et on a l'espérance qui nous encourage, qui nous motive. Et sachant que la récompense à la fin, c'est d'être honoré par Dieu même. Et ici, Dieu honore son Fils par la voix qui se fait entendre du ciel. Il dit, « J'ai glorifié mon nom et je glorifierai encore à nouveau. » C'était la prière de Jésus. Mais ce n'est pas un chemin qui est facile et ce n'était pas facile pour Jésus lui-même. Et il nous comprend. On voit ici son humanité, bien qu'il est fils de Dieu, il était un humain comme nous, il s'est fait humain. Et il est écrit au verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée. » Et le verbe ici qui est traduit par « troublé » montre peut signifier d'être dans l'angoisse. Que même ce que l'on voit nous fait horreur. On veut le repousser. Ça fait penser à l'attitude de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Il n'était pas loin de là. Son âme était troublée à la pensée de tout ce qu'il allait subir, en disant, « Mon heure est arrivée, c'est l'heure où il va souffrir atrocement. » Et là, Jésus pose la question, « Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. » Il dit, « C'est pour cela que je suis venu à cette heure. » Donc, il ne veut pas finalement s'en échapper. Bien que dans le jardin de Gethsémané, il ose poser la question au Père Céleste, mais ce qui est important pour Jésus, c'est de faire sa volonté. Et c'est ce qu'il déclare tout de suite après. Jésus est résolu et il élève la requête, « Père, glorifie ton nom. » Il demande au Père de glorifier son nom. Il sait très bien que pour que le Père soit glorifié, il doit passer par la mort. Mais Jésus est résolu. La résolution de Jésus sur ce chemin très difficile, c'est notre modèle. Plus on ressemble à Jésus, plus on sera résolu. Et peu importe les obstacles qui vont se présenter, les épreuves, on va les passer sans déshonorer notre Seigneur et sans le renier. Et c'est ce que Jésus nous demande, même. Ce n'est pas juste un bel exemple qu'il faut avoir si jamais on progresse, c'est ce que Jésus nous demande. Lorsque ses disciples ont demandé à Jésus, « Enseigne-nous à prier », il leur a donné un exemple de prière. Vous vous souvenez laquelle? Le Notre Père. Et par quoi commence le Notre Père? Que ton nom soit sanctifié. C'est une autre manière de dire que ton nom soit glorifié. Si on prie ce genre de prière-là quotidiennement, on est en train de demander à Dieu que son nom soit sanctifié, glorifié. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est qu'on ne veut pas simplement qu'il soit glorifié dans la maison du voisin. Ça sous-entend qu'on veut qu'il le soit chez nous. Quand on exprime ce souhait-là, c'est en même temps un engagement qu'on va glorifier Dieu. Qu'on va le sanctifier par nos propres vies. C'est ce qu'on souhaite. Mais c'est triste de voir qu'il y a des milliers de personnes sur la terre qui ont récité le Notre Père des milliers de fois en disant que ton nom soit sanctifié sans même se soucier de savoir si leur vie glorifiait Dieu. Mais Dieu répond à Jésus et c'est une confirmation que la mission que Jésus est en train d'accomplir le glorifie. Il dit, je l'ai glorifié, mon nom, je l'ai glorifié par toi, donc par la naissance de Jésus, par sa marche dans sa vie sans péché, dans son ministère qu'il est en train d'accomplir, et il dit, je le glorifierai à nouveau. Donc, je ne sais pas tout ce que Dieu, le Père voulait dire au Fils ici, mais il est entre autres en train de lui dire, la mort qui t'attend bientôt, là, elle va me glorifier. Ce n'est pas en vain. C'est vraiment pour ma gloire. Et ça confirme que Jésus est en train d'accomplir vraiment la volonté de Dieu, qu'il est dans la bonne attitude, une bonne motivation, sans hypocrisie. Et ceux qui assistent à la scène, ils entendent un bruit, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais Jésus vient d'élever cette requête à Dieu, que ton nom soit glorifié, et le bruit qui se fait entendre, certains pensent que c'est le tonnerre, d'autres pensent que c'est un ange qui s'adressait à Jésus. Ils ne comprennent pas, puis ça en soi, c'est une belle illustration de leur aveuglement, leur insensibilité du cœur. Mais même s'ils ne comprennent pas ce qui est dit, le simple phénomène qui s'est produit là aurait dû les pousser à comprendre qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe là. On arrive à un moment là, où Jésus s'adresse à Dieu, Dieu répond, on arrive à un moment dans l'histoire charnière pour l'histoire du salut. Mais au lieu de cela, ils argumentent avec Jésus. Ils argumentent sur l'identité du Fils de l'homme. Donc on voit qu'ils n'ont pas une foi sincère. Qui est le Fils de l'homme? Qui est le Christ? Si c'est vraiment le Fils de l'homme qui doit être élevé, ils comprennent que ça veut dire de mourir sur la croix. Mais comment ça se fait? Le Fils de l'homme est supposé d'être éternel. Mais Jésus ne répond pas. Il a déjà tout enseigné. Il ne va pas se relancer dans un débat de sourds. Il dit plutôt de profiter du fait que la lumière est encore là pour un peu de temps. Ça aussi, c'est un beau modèle pour nous. Lorsqu'on annonce l'Évangile est annoncé, on peut le répéter, c'est sûr, mais le message, c'est profitez-en pendant le temps que vous avez encore un peu de lumière. Quand viennent les ténèbres, c'est fini. Il y a un temps pour croire en Jésus, et ce temps n'est pas éternel. S'ils n'en profitent pas, ses compatriotes, plus tard, ils seront dans les ténèbres. Et il déclare que l'heure est arrivée, son heure, mais c'est aussi l'heure du jugement du monde. Bon, on attend encore le jugement final. C'est comme la phase A, si on peut dire, du jugement de Dieu. Mais par la mort de Christ, le jugement commençait. Cette mort, elle est victorieuse et elle va avoir un effet réel sur le monde spirituel. Entre autres, Satan, Jésus dit, est sur le point d'être jeté dehors. Dehors de quoi? Dehors du royaume de Dieu que Jésus est en train d'inaugurer. Satan n'y trouvera pas sa place. Jésus, après avoir été élevé sur la croix, attirera tous les hommes à lui, il dit, les hommes de toute nation, sans distinction, pas tous les hommes sans exception, c'est sûr qu'il y a beaucoup refusent, mais les hommes de toute nation, de tout arrière-plan, qu'ils soient nés juifs ou nés païens, esclaves ou maîtres, hommes ou femmes, il va les attirer à lui dans son royaume, mais Satan sera dehors. Et ceux qui le rejettent sont appelés ailleurs des fils du diable. Ils seront dehors avec lui. Par sa mort expiatoire, Jésus a payé nos péchés et il a vaincu Satan. C'est vrai que Satan n'est pas encore détruit, annihilé. On attend cela pour la fin des temps où il sera jeté dans les temps de feu. Mais il est déjà vaincu. Comme un roi qui aurait déjà perdu la guerre. Il n'est pas encore détruit, mais sa guerre est déjà terminée. Il est réfugié là, dans sa forteresse, mais son heure est comptée. Donc Satan est toujours actif, mais puisque Jésus déclare qu'il est dehors, il n'a plus accès à l'Église, ceux qui deviennent les enfants de Dieu qui sont dans les creux de sa main, que personne ne peut ravir, Satan même ne peut pas les ravir. Il ne peut pas détruire l'Église. Et si nous sommes des élus de Dieu, il ne peut pas nous séduire au point où nous allons renier le Christ et apostasier. Il n'a pas ce pouvoir-là, il est limité. C'est ce qu'a fait dire Jésus dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église ». Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pour ça que l'Église continue de progresser malgré l'oppression et les attaques. Et elle continuera jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Bon, ici, c'est mon interprétation personnelle, mais en ce sens, Satan est lié. On a chacun notre interprétation sur les choses de la fin des temps, mais il est annoncé dans l'Apocalypse que Satan doit être lié pour 1000 ans. Je crois que nous sommes dans ce 1000 ans-là, une longue période de temps où Satan est lié, il ne peut plus séduire les nations et empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais un jour, il sera délié et le Seigneur nous demande de nous préparer à une attaque contre l'Église. Mais on sait que c'est pour peu de temps et le Seigneur Jésus reviendra. Mais ici, Jésus, en argumentant avec eux et en leur disant « Profitez de la lumière », il voit bien qu'ils sont incrédules. Devant cette incrédulité-là, il se retire, il se cache, en attendant. Et c'est intéressant, à partir du chapitre 13, qu'on étudie la semaine prochaine avec Timothée, il reste seulement avec ses disciples. Donc, il va passer le reste du temps jusqu'à son arrestation, seulement avec ses disciples. Le reste du peuple est comme jugé de l'avoir rejeté. Pour leur incrédulité. L'incrédulité généralisée des Juifs semble incompréhensible vu tous les miracles qu'ils ont assistés. Ils viennent même d'apprendre que Jésus a ressuscité un mort. Mais Jean prend la peine, c'est comme si tout à coup il ouvre une parenthèse et il va nous expliquer pourquoi ils sont si incrédules. Donc, lisons la dernière partie, au verset 37 à 43. Malgré tant de miracles qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Ésaïe, « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? À qui le bras de l'Éternel, le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire? Parce qu'Ésaïe dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » C'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. C'est la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont je parle comme le Père me l'a dit. Donc, on comprend d'abord pourquoi que les Juifs étaient incrédules, même s'ils ont vu tant de miracles. Bien, on comprend. Ça nous est dit, même si c'est difficile à comprendre. Mais ils ressemblent à leurs ancêtres, les Israélites qui marchaient dans le désert. Après que Dieu les ait secourus, libérés d'Égypte, et il a fait par 10 grands miracles, 10 grandes plaies miraculeuses. Il a même ouvert la mer pour qu'ils puissent passer à pied sec. Malgré cela, ils demeuraient rebelles à Dieu, incrédules. Ils ne croyaient pas dans la promesse de Dieu qui allait leur donner un bon pays. Et lorsqu'ils sont arrivés au pied, à la porte de ce pays, ils n'ont pas cru en Dieu. Ils sont restés dans le désert pendant 40 ans où ils sont morts. De l'incrédulité face à toute la puissance manifestée de Dieu, Moïse a dit dans Deutéronome 29, « Moïse convoqua tout Israël et dit, « Vous avez vu ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, ce qu'il a fait au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes, ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, et des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre. » Donc, on voit que humainement, la nature pécheresse nous rend aveugles, sourds, insensibles. Ça prend l'intervention de Dieu pour venir nous donner un nouveau cœur, nouveaux yeux, nouvelles oreilles. L'incrédulité des Juifs au temps de Jésus, non seulement avait été prédite dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur va venir, ils seront incrédules, mais on voit qu'elle était même décidée par Dieu et qu'elle était nécessaire dans le plan de Dieu. Jésus devait être rejeté. Et pour cela, Jean cite un passage qu'on connaît bien. Ésaïe 53. Il dit, « Seigneur, qui a cru à ce que tu nous as fait entendre? » Des mots un petit peu différents, il cite la version grecque. « À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Et par la suite, dans Ésaïe 53, on lit que le Seigneur, Jésus, a porté nos péchés. Qu'il a été meurtri, brisé pour nos iniquités. Mais par son propre peuple, par le peuple chez lequel il devait venir. Donc, il avait été prophétisé non seulement que le Messie allait venir mourir pour le peuple, mais qu'il allait mourir parce qu'il allait être rejeté par le peuple. C'était dans le plan de Dieu que ce peuple demeure dans l'incrédulité, pour que Jésus soit rejeté, meure pour eux. Et par la suite, Dieu allait ouvrir les yeux. Au verset 40 aussi, Jean cite un autre passage d'Ésaïe, dans Ésaïe 6, où il dit « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc, l'aveuglement du peuple, son insensibilité, c'était une forme de jugement de Dieu. Vous avez été rebelles, vous allez être rebelles. Vous n'avez pas voulu voir, vous n'allez pas voir. Vous n'avez pas voulu entendre, vous n'allez pas entendre. Et ce jugement-là était encore là au temps de Jésus. Dieu les a jugés en les rendant incapables de croire en Jésus, de sorte qu'ils ont rejeté leur Messie et l'ont fait mourir. Et Jésus exprime que c'est extrêmement grave de le rejeter. Rejeter Jésus, qu'ils voient de leurs yeux, c'est rejeter le Père qui l'a envoyé. Ils ne réalisaient pas là, qu'en crucifiant Jésus, ils étaient en train de s'opposer à Dieu lui-même, le Créateur. Plusieurs l'ont compris après la Pentecôte. Heureusement, il y en a 3 000 qui ont été saisis Ils se sont repentis. Par la suite, le nombre s'est augmenté. Mais on voit que la majorité des Juifs n'ont pas compris qu'ils se sont opposés à Dieu même en rejetant Jésus. Refuser de croire en Jésus, c'est s'attirer le jugement divin, la condamnation éternelle, avec le reste du monde qui est jeté dehors, en enfer pour l'éternité. Pourtant, Jésus n'est pas venu pour juger, mais les paroles mêmes qu'il a prononcées, c'est ce qui détermine notre destinée. Donc, si on rejette les paroles de Jésus, on s'attire un jugement. Les paroles mêmes de Jésus sont notre acte de condamnation. Mais si on les accepte, ça produit la vie éternelle. Donc, tout dépend, notre destinée éternelle dépend de si on accepte les paroles de Jésus, parce que les paroles que Jésus a prononcées, tout le Nouveau Testament, c'est les paroles de Dieu le Père. Donc, en conclusion, ce texte-là nous a présenté d'abord une belle louange à Jésus. Et c'est bon de louer le Seigneur. Hosanna! Une louange qu'on peut certainement reproduire, mais faisons en sorte que notre louange ne soit pas des lèvres seulement. Honorons Christ dans nos vies. Faisons en sorte que nos louanges lui soient agréables. Si pendant la semaine, nous n'agissons pas comme un chrétien, nous pouvons chanter de tout notre cœur le dimanche matin. Je ne pense pas que ça va faire plaisir à Dieu. Honorons Christ en cherchant à connaître ses prescriptions qui sont dans la Bible. Lisons la Bible quotidiennement, puis cherchons à les appliquer dans nos vies, à obéir, à le mettre en priorité. Nous avons vu aussi l'incrédulité des Juifs qui est presque incompréhensible après avoir vu autant de miracles de Jésus, mais on sait que c'était prévu par Dieu dans son plan. C'était même un jugement contre eux. Et ça, c'est un bon plan, parce que ça allait permettre par la suite que ceux parmi eux qui allaient se repentir allaient être sauvés, mais que des gens de toutes les nations allaient pouvoir être sauvés aussi. Le rejet de Jésus par son peuple a ouvert la porte au salut des nations. Donc, ça nous rappelle que Dieu est souverain dans son plan. Il dirige, il décide, il décrète. Ça peut être décourageant quand on pense à des gens qu'on souhaiterait voir être sauvés puis qui ne le sont pas. Mais comme on ne sait pas, on peut prier. Et d'ailleurs, savoir que Dieu est en contrôle, qu'il est souverain, c'est encourageant. On peut prier parce qu'on sait qu'il peut agir dans la vie des gens. Il peut sauver. Si c'était uniquement le choix de l'homme, mais à quoi bon prier Dieu pour qu'il intervienne? On prie Dieu parce qu'on sait qu'il est souverain. C'est un grand encouragement. Et Dieu exprime son cœur. Paul le dit à son protégé Timothée, en lien justement avec la mission d'évangéliser, où est-ce qu'on voit des fruits positifs et parfois l'absence de fruits. Et Paul révèle ici le cœur de Dieu. Il dit dans 1 Timothée 2, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et le témoignage pour lequel nous évangélisons. Et rappelons-nous que le Seigneur souhaite que tous soient sauvés. Mais Dieu est aussi souverain et il exécute son plan. C'est deux vérités qui sont paradoxales, mais les deux sont vraies. Et Paul ajoute à son même protégé, à Timothée, pour l'encourager. Il dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, son plan, selon sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc, mettons notre foi en Dieu, soyons, efforçons-nous d'être dignes de sa vocation, la vocation qu'il nous a confiée, dignes de son appel, dignes de notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen.